Pâques. Preuve historique de la résurrection, partie 2 sur 2. L'origine de la foi chrétienne. Enfin, l'existence de l'Église chrétienne est une preuve solide de la résurrection. Pourquoi est-ce? Parce que même les érudits du NT les plus sceptiques admettent que les disciples croyaient au moins que Jésus était ressuscité du tombeau. Mais comment expliquer l'origine de cette croyance? William Lancret souligne qu'il y a trois causes possibles, les influences chrétiennes, les influences païennes ou les influences juives. Serait-ce dû à des influences chrétiennes? Cray écrit, puisque la croyance en la résurrection était elle-même le fondement du christianisme, elle ne peut pas être expliquée comme le produit ultérieur du christianisme. De plus, comme nous l'avons vu, si les disciples ont inventé cela, alors ils étaient des fraudeurs et des menteurs, des alternatives que nous avons démontrées fausses. Nous avons également montré qu'il était peu probable qu'ils aient halluciné cette croyance. Mais qu'en est-il des influences païennes? N'est-il pas souvent souligné qu'il existait de nombreux mythes sur des dieux sauveurs mourants et ressuscités à l'époque du christianisme? Les disciples n'auraient-ils pas pu se laisser tromper par ces mythes et les copier dans leur propre enseignement sur la résurrection du Christ? En réalité, les chercheurs sérieux ont presque universellement rejeté ces théories depuis la Seconde Guerre mondiale, pour plusieurs raisons. Premièrement, il a été démontré que ces religions à mystère n'avaient pas d'influence majeure en Palestine au 1er siècle. Deuxièmement, la plupart des sources contenant des parallèles proviennent d'après l'établissement du christianisme. Troisièmement, la plupart des similitudes sont souvent apparentes et non réelles, résultat d'une terminologie bâclée de la part de ceux qui les expliquent. Par exemple, un critique a tenté de faire valoir qu'une cérémonie consistant à tuer un taureau et à laisser couler le sang sur tous les participants était parallèle à la Sainte Communion. Quatrièmement, les premiers disciples étaient juifs, et il aurait été impensable pour un juif d'emprunter à une autre religion, car il croyait avec zèle que les religions païennes abhorraient Dieu. Les influences juives ne peuvent pas non plus expliquer la croyance en la résurrection. Le judaïsme du 1er siècle n'avait aucune conception d'un seul individu ressuscitant des morts au milieu de l'histoire. Leur concept a toujours été que tout le monde serait élevé ensemble à la fin des temps. L'idée d'un individu s'élevant au milieu de l'histoire leur était donc étrangère. Ainsi, le judaïsme de cette époque n'aurait jamais pu produire l'hypothèse de la résurrection. C'est aussi un autre bon argument contre la théorie selon laquelle les disciples hallucinaient. Les psychologues vous diront que les hallucinations ne peuvent rien contenir de nouveau, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent contenir aucune idée qui ne soit déjà présente dans votre esprit. Puisque les premiers disciples étaient juifs, ils n'avaient aucune conception du Messie ressuscitant des morts au milieu de l'histoire. Ainsi, ils n'auraient jamais halluciné à propos d'une résurrection du Christ. Au mieux, ils auraient halluciné qu'il avait été transporté directement au ciel, comme Élie l'avait été dans l'Ancien Testament, mais ils n'auraient jamais halluciné une résurrection. Nous voyons donc que si la résurrection n'a pas eu lieu, il n'existe aucune manière plausible d'expliquer l'origine de la foi chrétienne. Nous nous retrouverions avec un troisième mystère inexplicable. Trois faits indépendants, preuves historiques pour le R. Ce sont trois faits établis indépendamment que nous avons établis. Si nous nions la résurrection, nous nous retrouvons face à au moins trois mystères inexplicables. Mais il existe une bien meilleure explication qu'un appel stupide au mystère ou un appel tiré par les cheveux à un corps voulé, à une hallucination et à une religion mystérieuse. La meilleure explication est que le Christ est en fait ressuscité des morts. Même si nous prenons chaque fait isolément, nous disposons de suffisamment de preuves. Mais ensemble, nous constatons que les preuves deviennent encore plus solides. Par exemple, même si deux de ces faits devaient être expliqués, il y aurait toujours la troisième vérité pour établir le fait de la résurrection. Ces trois faits établis indépendamment rendent également les explications alternatives moins plausibles. Il est généralement admis que l'explication ayant la meilleure portée explicative doit être acceptée. Autrement dit, la théorie qui explique la plupart des preuves a plus de chances d'être vraie. La résurrection est la seule hypothèse qui explique toutes les preuves. Si nous nions la résurrection, nous devons trouver trois explications naturelles indépendantes, et non une seule. Par exemple, il faudrait proposer que les Juifs ont volé le corps, puis que les disciples ont halluciné, et que d'une manière ou d'une autre, les religions mystérieuses païennes ont influencé leurs croyances pour leur faire penser à une résurrection. Mais nous avons déjà vu l'invraisemblance de telles théories, et essayer de les combiner ne fera qu'empirer les choses. Comme l'a dit Gary Aberma, la combinaison de trois théories improbables ne produira pas une explication probable. Cela augmentera en fait le degré d'improbabilité. C'est comme mettre des seaux qui fuient les uns dans les autres, en espérant que chacun aidera à boucher les fuites des autres, vous obtiendrez un gâchis à queue. Légende? Avant d'examiner brièvement les implications de la résurrection, je souhaite jeter un coup d'œil rapide sur la théorie peut-être la plus populaire aujourd'hui contre la résurrection. Il s'agirait d'une légende qui s'est développée au fil du temps. Les faits que nous avons établis jusqu'à présent suffisent à mettre un terme à toute idée de légende. Premièrement, nous avons vu que le témoignage de la résurrection remonte aux expériences originelles. Vous souvenez-vous du credo des témoins oculaires de 1 Corinthiens 15, 3 à 5 ? C'est le témoignage direct de Pierre et Jacques. Il n'est donc pas vrai que la croyance en la résurrection ait évolué au fil du temps. Au lieu de cela, nous avons le témoignage de ceux-là même qui prétendaient l'avoir vécu. Deuxièmement, comment la théorie du mythe peut-elle expliquer les preuves du tombeau vide ? Troisièmement, la théorie des mythes ne peut pas expliquer l'origine de la foi chrétienne, car nous avons déjà vu que la véritable résurrection du Christ est la seule cause adéquate pour la croyance en la résurrection. Quatrièmement, la théorie des mythes ne peut expliquer la conversion de Paul. Serait-il convaincu par un mythe ? Sa conversion était en fait trop précoce pour qu'un mythe se soit alors développé. Comment alors expliquer sa conversion ? Osera-t-on l'accuser de mentir lorsqu'il dit avoir vu le Christ ressuscité ? Cinquièmement, nous avons vu la preuve que l'histoire du tombeau vide de Marc remonte très tôt, dans les 7 ans qui ont suivi les événements. Ce n'est pas assez long pour les légendes. Sixièmement, nous avons vu que le récit du tombeau vide manque des traits classiques du développement légendaire. Septièmement, les érudits critiques conviennent que le message de la résurrection était le fondement de la prédication de l'Église primitive. Ainsi, cela ne pouvait pas être le produit de l'Église ultérieure. Neuvièmement, il existe de très bonnes preuves que les évangiles et les actes ont été écrits très tôt. Par exemple, le livre des actes ne rapporte jamais la mort de Paul, survenue vers 64, ni la destruction de Jérusalem, survenue en 70. Puisque Jérusalem et Paul sont tous deux des acteurs clés du livre des actes, il semble étrange que leur disparition soit omise. La meilleure explication semble être que la mort de Paul et la destruction de Jérusalem sont omises parce que le livre des actes avait été achevé avant qu'elles ne surviennent. Cela signifie que les actes ont été écrits avant 64, date de la mort de Paul. Puisque les actes sont le volume de des écrits de Luc, le livre de Luc étant le premier, alors l'évangile de Luc était encore plus ancien, peut-être 62. Et puisque la plupart des érudits conviennent que Marc était le premier évangile écrit, cet évangile aurait été composé encore plus tôt. Peut-être à la fin des années 50. Cela nous amène à 20 ans des événements, ce qui ne suffit pas pour que les légendes se développent. La théorie de la légende n'est donc pas très plausible. Sur la base des preuves que nous avons vues, il me semble que la résurrection est la meilleure explication. Cela explique le tombeau vide, les apparitions de résurrection et l'existence de l'Église chrétienne. Aucune autre théorie concurrente ne peut expliquer ces trois faits. En fait, aucune de ces théories concurrentes ne peut donner une explication satisfaisante ne serait-ce qu'à l'un de ces faits. Il semble donc que la personne rationnelle acceptera que Jésus-Christ soit ressuscité des morts. L'importance de la résurrection, preuves historiques pour le. Mais, en conclusion, ne faut-il pas se demander quelles sont les implications de cette situation ? En quoi est-ce important ? Ou s'agit-il d'un vieux morceau d'histoire aride et poussiéreux qui n'a aucun rapport avec nos vies ? Je crois que la résurrection est la vérité la plus importante au monde. Cela a des implications considérables sur nos vies. Premièrement, la résurrection prouve que les affirmations de Jésus sur lui-même sont vraies. Qu'a déclaré Jésus ? Il prétendait être Dieu. On pourrait dire, je ne crois pas qu'il prétende être Dieu, parce que je ne crois pas à la Bible. Mais le fait que même si nous ne prenons que les passages que les érudits sceptiques admettent comme authentiques, il peut quand même être démontré que Jésus prétendait être Dieu. J'ai écrit un article ailleurs pour le démontrer. Il est donc impossible d'ignorer le fait que Jésus prétendait être Dieu. Or, si Jésus était resté mort dans le tombeau, il serait insensé de croire cette affirmation. Mais puisqu'il est ressuscité des morts, il serait insensé de ne pas le croire. La résurrection prouve que ce que Jésus a dit de lui-même est vrai, il est pleinement Dieu et pleinement homme. Deuxièmement, vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les raisons de croire en la Bible ? Y a-t-il de bonnes raisons de croire qu'il a été inspiré par Dieu, ou s'agit-il simplement d'un tas de mythes et de légendes intéressants ? La résurrection de Jésus répond à la question. Si Jésus est ressuscité des morts, alors nous avons vu que cela valide sa prétention d'être Dieu. S'il est Dieu, il parle avec une certitude absolue et une autorité définitive. Par conséquent, ce que Jésus a dit à propos de la Bible doit être vrai. Vous allez sûrement accepter le témoignage d'un ressuscité des morts plutôt que le témoignage d'un érudit sceptique qui mourra lui-même un jour, sans pouvoir se relever le troisième jour. Qu'a dit Jésus à propos de la Bible ? Il a dit qu'il était inspiré de Dieu et qu'il ne pouvait pas se tromper. J'accepterai le témoignage de Jésus sur ce que j'aimerais être vrai et sur les opinions des autres hommes et femmes. C'est pourquoi je crois que la Bible est inspirée de Dieu, sans erreur. Ne vous laissez pas tromper par les nombreuses théories sceptiques et incrédules sur la Bible. Faites confiance à Jésus, il est ressuscité des morts. Troisièmement, de nombreuses personnes sont confuses face aux nombreuses religions différentes qui existent dans le monde. Sont-ils tous de Dieu? Mais en y regardant de plus près, nous voyons qu'ils ne peuvent pas tous venir de Dieu, car ils se contredisent tous. Ils ne peuvent pas tous être vrais, pas plus que 2 plus 2 peuvent être égaux à la fois 4 et à 5. Par exemple, le christianisme est la seule religion qui croit que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Toutes les autres religions disent qu'il était uniquement un homme bon et non Dieu. De toute évidence, les deux affirmations ne peuvent pas être vraies. Quelqu'un a tort. Comment savoir quelle religion est correcte? Par un simple test, quelle religion donne la meilleure preuve de sa vérité? À la lumière de la résurrection du Christ, je pense que le christianisme a les meilleures raisons de le faire. Jésus est le seul chef religieux ressuscité des morts. Tous les autres chefs religieux sont toujours dans leur tombe. Qui croirais-tu? Je pense que la réponse est claire, la résurrection de Jésus démontre que ce qu'il a dit était vrai. Par conséquent, nous devons accepter sa déclaration comme étant le seul chemin vers Dieu, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi », Jean 14, 6. Quatrièmement, la résurrection du Christ prouve qu'un jour Dieu jugera le monde. L'apôtre Paul a dit, « Dieu déclare maintenant aux hommes que tous, partout, doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'intermédiaire d'un homme qu'il a désigné, ayant fourni à tout une preuve en le ressuscitant d'entre les morts. » La résurrection du Christ prouve quelque chose de très personnel et significatif pour chacun de nous, nous devrons rendre compte de nous-mêmes à un Dieu saint. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devrons admettre que nous ne sommes pas à la hauteur de ses standards. Nous sommes pécheurs et méritons donc d'être condamnés lors de son jugement. Ce qui nous amène à notre cinquième point. La résurrection du Christ offre une véritable espérance de vie éternelle. Pourquoi ? Parce que Jésus dit qu'en ayant confiance en lui, nous serons pardonnés de nos péchés et échapperons ainsi à la condamnation au jugement. Le Nouveau Testament ne nous dit pas seulement que Christ est ressuscité des morts et ne nous laisse pas nous demander pourquoi il a fait cela. Il répond qu'il a fait cela parce que nous sommes pécheurs. Et parce que nous avons péché, nous méritons le jugement de Dieu. Puisque Dieu est juste, il ne peut pas simplement laisser tomber nos péchés. La pénalité pour nos péchés doit être payée. La bonne nouvelle est que Dieu, par amour, s'est fait homme en Jésus-Christ afin de payer le prix des pécheurs. Sur la croix, Jésus est mort à la place de ceux qui croiraient en lui. Il a pris sur lui la mort que nous méritons. L'apôtre Paul dit, « Il a été livré à cause de nos péchés. » Mais l'apôtre Paul continue en disant, « Il est ressuscité grâce à notre justification. » Paul dit que la résurrection du Christ prouve que sa mission de vaincre le péché a réussi. Sa résurrection prouve qu'il est un sauveur qui est non seulement disposé, mais également capable de nous délivrer de la colère de Dieu qui viendra le jour du jugement. Le pardon pour lequel Jésus est mort et ressuscité est accordé à ceux qui ont confiance en lui pour le salut et un avenir heureux. Conclusion. Permettez-moi de terminer avec la sixième raison pour laquelle la résurrection est importante. La Bible dit que la résurrection du Christ est le modèle que suivront ceux qui croient en lui. En d'autres termes, ceux qui croient en Christ seront un jour ressuscités par Dieu, tout comme lui. La résurrection prouve que ceux qui font confiance au Christ ne seront pas soumis pour l'éternité à une existence à moitié humaine uniquement dans leur âme. Cela prouve que nos corps ressusciteront un jour. Grâce à la résurrection du Christ, les croyants connaîtront un jour, pour toujours, la liberté d'avoir une âme et un corps glorifiés. Pascal Cusson. Mars 2024.